Cette vidéo est sponsorisée par ADN. ADN, c'est une plateforme de streaming française dédiée à l'animation. Vous y trouverez plein d'animés super cultes comme Naruto, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Beaucoup d'animations japonaises mais aussi de l'animation française avec par exemple Wakfu et Last Man. Il y a aussi une section gratuite pour voir des épisodes juste en créant un compte. Et depuis 2023, ADN est aussi coproducteur de séries originales comme par exemple Lance Dur fait par le studio Ankama et Le Collège Noir fait par le studio La Cachette. Et on va justement parler du Collège Noir dans cette vidéo-là puisque je discute avec Ulysse Malassagne qui est cofondateur du studio La Cachette et réalisateur de la série Le Collège Noir, adapté de sa bande dessinée. Pour s'abonner à ADN et avoir un accès illimité à tout le catalogue, c'est 6,99€ par mois, et avec un tarif dégressif puisque le prix de l'abonnement diminue en fonction de l'ancienneté. Vous avez un lien en description pour découvrir tout ce qui est disponible sur ADN, et maintenant on va aller discuter avec Ulysse Malassagne, réalisateur de la série Le Collège Noir. Salut Ulysse, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui, et en particulier de la série Collège Noir qui est sortie récemment. Donc on va faire un petit tour peut-être sur ton parcours aussi, et se focaliser sur justement l'adaptation de la bande dessinée en série animée. Est-ce que tu peux peut-être commencer par raconter un petit peu qui tu es, ton parcours, peut-être quelques points clés sur ce que tu as fait jusqu'ici?
Ouais, bah salut. Je suis Ulysse Malassagne. J'ai cofondé le studio La Cachette avec Oussama Boucheria et Julien Cheng en 2014. On avait étudié ensemble à l'École des Gobelins. Donc on avait passé 3 ans à travailler ensemble, on avait fait notre film ensemble, et en sortant de l'école, on partageait un peu cette envie déjà de continuer à travailler ensemble et puis de faire, surtout d'essayer de faire nos propres projets. Donc de là a découlé l'idée de monter le studio La Cachette, qui est devenu maintenant un peu mon activité principale. À côté de ça, je fais quand même aussi beaucoup de bandes dessinées, et j'essaie un peu de créer des ponts entre les deux, notamment justement avec l'adaptation du Collège Noir que j'ai d'abord écrite en bande dessinée et puis ensuite réalisée en dessin animé. Je partage un peu ma vie entre ça, entre le studio et puis les bandes dessinées.
Ouais. Et ça d'ailleurs, c'est un truc qui m'intéresse de discuter, c'est le côté création de ce studio-là. Parce que vous avez fait votre film ensemble, c'était le Royaume qui m'avait bien aussi marqué à l'époque. C'est un de ceux qui a fait que je me suis intéressé aux écoles d'animation, etc. Justement, comment est-ce que ça s'est fait on va continuer à travailler ensemble en fait, on va construire même une entreprise et tout. C'est quand même un truc qui est pas, je
Oui.
sais pas à quel point c'est courant des collectifs qui se forment comme ça après école, mais c'est un des plus marquants, je trouve, en France en tout cas.
Ouais, c'est vrai que c'est pas si courant. En tout cas, il y a beaucoup je pense, d'étudiants qui, en sortant de l'école, ont envie de monter quelque chose, un collectif ou quoi, mais souvent, ça reste à l'étape de collectif, où ça va pas forcément beaucoup plus loin, quoi. Nous, il y avait d'abord un coup de cœur amical, forcément, ce qui a fait que ça qui a vachement aidé. S'entendait très bien. Et cette envie aussi de continuer à faire de l'animation 2D, ça c'était un truc qui nous liait aussi. Et avant de monter le studio, on a quand même fait presque 2 ans à travailler un peu chacun de notre côté, en fait. Moi, en tant qu'animateur, par exemple, sur le premier film d'Ernest et Célestine, il y avait Julien Cheng aussi. Julien Cheng, lui, il est aussi allé faire un stage aux États-Unis chez Disney. Oussama, lui, a fait un stage au Japon, il a bossé un peu en storyboard. Enfin, on a fait chacun un peu notre vie d'artiste, de technicien. Et c'est un peu aussi, en découvrant un peu le monde de l'animation comme ça, qu'on s'est dit qu'en fait, c'était bien, mais que ça ne nous suffisait pas forcément, parce que, encore une fois, nous, on voulait être un peu plus qu'un maillon, tu vois, d'une chaîne sur des projets qui n'étaient pas les nôtres. Donc, c'est un peu après avoir bossé un peu comme ça, chacun de notre côté, qu'on s'est retrouvés et puis on a fini par se dire qu'on allait vraiment, vraiment faire, quoi. Après, nous, on a effectivement commencé en tant que collectif. On n'a pas été cousus d'un studio. On a d'abord commencé juste à bosser ensemble en tant que freelance. On était juste 3 freelances qui bossaient ensemble quand on a loué un petit local. Enfin,
Ouais, donc
d'abord, on louait
là, il n'y a pas de
d'ailleurs,
structure
c'était
à ce moment-là, quoi. C'est vraiment juste on se met au même endroit,
exactement.
on bosse sur nos projets. Ouais.
Voilà, exactement. Et donc, il y a un ami de Julien Cheng qui avait. Un bout de studio qui voulait bien nous traiter pour qu'on puisse s'installer. On a retapé un peu le truc, fait quelques travaux pour l'embellir un peu et puis on s'est installé là. Et le premier projet qu'on a fait, c'était justement aussi une Kairos qui était adaptée de ma première BD, justement. Donc d'un petit trailer pilote on s'est dit qu'on allait partir là-dessus parce que du coup l'univers était déjà créé, quoi, la BD existait. Moi,
Oui,
ça me
ça fait un
permettait de
format
faire
court aussi et qui est relativement facile à faire, on va dire, au niveau durée.
Voilà. Exactement, c'était une trentaine de secondes sans dialogue. Donc, ça allait servir un peu à la fois de pub pour la BD, mais aussi de carte de visite du studio, en fait. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Après, ça s'est fait vraiment petit à petit, hein. C'est vrai que, parce qu'on n'est pas fort, on n'était pas formé du tout à être gérant d'un studio à la base. C'est un truc qu'on a vraiment appris et découvert un peu sur le tas. Et clairement, je pense que si on avait su à quel point c'était compliqué et toutes les galères, je suis même pas sûr qu'on aurait. C'est heureusement qu'il y avait une part un peu d'innocence et de naïveté en disant, oh bon, ça va être facile, on va monter un studio et tout va bien se passer. Parce qu'après, une fois voilà, qu'on commence à rentrer vraiment dans les histoires de production, de comptabilité, enfin tous ces trucs-là, ça, c'est forcément des trucs qui sont qu'on est obligé d'apprendre un peu sur le tas, quoi. Ouais.
Bah ça je comprends complètement parce qu'on a un peu ce même truc avec l'équipe de Calipeg. Notre application, c'est qu'on
Ouais.
l'a fait parce qu'on devait faire on s'est dit on va faire une appli, donc on doit faire une entreprise et tout, et c'est là qu'on voit tous les trucs à faire, mais on s'est pas dit on va faire une entreprise pour faire une entreprise
C'est
quoi. Donc
ça,
je
ouais.
pense que c'est un peu le même truc. Hein,
Et c'est aussi un peu ce qui au final a fait notre force aussi, c'est qu'on n'est pas entrepreneur à la base, on l'est devenu parce qu'on était les artistes qui voulions avoir le plus de contrôle possible sur notre art et sur nos créations. Donc c'est ça découlait de ça. Donc on avait cette espèce de double lecture à la fois du coup d'artistes et de gérants qui du coup on devait forcément jeter un œil au budget, au planning et tout ça, quoi. Donc on avait un peu ces deux casquettes-là, quoi, qui faisait que c'est peut-être ce qui a été une donne force au début et ce qui l'est encore d'ailleurs.
Et ce qui est bien pour ça d'avoir déjà eu des expériences en production, de voir à peu près comment ça marche de l'intérieur aussi pour recruter des gens, etc. Et faire que ça marche, d'avoir
Bah, bien
déjà une
sûr.
expérience, quoi.
Bien sûr, ouais, exactement. Et après, très vite, il a fallu aussi qu'on apprenne à déléguer, surtout la partie prod et tout ça. Enfin, au bout d'un moment, on s'en rend compte, on peut faire nous-mêmes, mais qu'il faut façon, on délègue. Maintenant, c'est même l'artistique qu'on commence à essayer de déléguer un petit peu, parce que même si niveau prod, on a maintenant embauché des gens qui sont très compétents et qui nous aident bien à gérer la production et tout ça, autant artistiquement, on a toujours eu du mal à lâcher le contrôle un peu parce qu'on se dit que c'est. Enfin voilà, on a besoin de garder un peu l'identité visuelle du studio. Enfin, on est un peu les garants de cette identité-là, quoi. Et donc c'est compliqué de lâcher un peu de cette partie-là. Mais même là-dessus, sur certains petits projets, maintenant, on commence à essayer de laisser faire avec des gens de confiance qu'on a justement, avec qui on a bossé plusieurs fois ou qu'on a aidé un peu qu'on a formé aussi un petit peu parce qu'on a beaucoup bossé avec des jeunes qui sortaient d'école et qui ont du coup pas mal évolué avec le studio et qui ont commencé assistants, puis sont devenus animateurs, superviseurs et là maintenant commencent à même potentiellement pouvoir devenir réal sur certains petits projets.
Oui, donc c'est vraiment toute l'évolution du studio qui a bientôt 10 ans là où il y a eu toutes les étapes et tout ça. Et là, justement, on va
C'est
se
ça, ouais.
concentrer sur le projet Collège Noir parce que si je me trompe pas, c'est le premier projet de série qui est original qui sort du studio, je crois. Même peut-être le premier projet tout court. Hein.
C'est le premier projet original produit vraiment par studio. Ouais. Alors juste avant, on avait fait ce qui était un peu notre première réal interne, c'était le court-métrage pour Star Wars, où là on avait eu carte blanche un peu, donc on avait fait vraiment la réal, l'écriture, le storyboard, tout ça. Mais ça restait une commande de Disney LucasArts. Là, le Collège Noir, c'est vraiment un truc qui vient à 100% de chez nous. Donc on a produit en partie nous-mêmes et voilà, avec d'autres partenaires évidemment. Mais ouais, donc première création originale du studio. Ouais. Donc
Et
ça a
de ce
mis 10
que...
ans à faire ce qu'on voulait faire au début, c'est-à-dire créer notre propre
Oui.
histoire et nos projets, quoi.
Ah oui, de toute façon, déjà les projets en eux-mêmes sont longs à faire, mais ensuite pour construire la renommée d'un studio, pour avoir de quoi faire tourner une série, ensuite c'est forcément long, quoi. Ouais.
Ouais, exactement. Ouais.
Et justement, par rapport à cette série-là, alors si je ne me trompe pas, encore une fois, c'est justement ta BD, le Collège Noir. Je crois que t'as pas forcément d'autres BD avant ça. Je sais plus, t'avais Kéros juste avant, mais est-ce qu'il y a une volonté de faire une autre série d'une autre BD, je veux dire, ou est-ce que c'est vraiment celle-ci où tu t'es dit c'est ma BD principale et c'est là-dessus que je vais tout faire en animation?
Ouais, ça s'est fait. Ça s'est fait pas. Vous savez, j'ai pas publié énormément de BD entre Kairos et Collège Noir. Il y a eu quelques carnets de voyage dans des recueils, dans des livres auto-édités. J'avais fait un premier album qui est sorti à peu près en même temps que Kairos, qui s'appelait Jade, qui était un one shot. Mais du coup, le Collégien, c'était vraiment ma dernière grosse série où effectivement, je me suis dit qu'il y avait un potentiel pour devenir une série d'animation. Après, moi, potentiellement, tous mes projets, quand j'ai fait en BD, maintenant, je me dis, ah, si je peux, j'adapterai en animation. J'ai forcément cette déformation professionnelle, on va dire, qui fait que dès que je fais une BD, je la vois déjà en animation un peu.
Ouais, bah j'imagine que ça se mélange assez vite, d'autant que la mise en scène en BD peut, enfin, il y a aussi tout un travail, on va dire, qui se rapproche de l'animation dans le côté, il faut trouver des posings forts, de la mise en scène qui ensuite peut être transcrite plus ou moins facilement, etc., quoi.
Ouais, c'est des médias qui sont quand même assez proches. Il y a cette idée de raconter des histoires avec une suite d'images, quoi. Donc même si c'est deux médias différents avec des spécificités, en fait, il y a quand même, comment dire, une colonne vertébrale qui est un peu la même, quoi, dans ces deux domaines. Et ça peut même être des choses assez complémentaires parce que moi, pour Collège Noir, l'idée, c'était pas juste d'adapter bêtement la BD telle quelle, quoi. C'était vraiment de rajouter une autre dimension, de profiter du fait que c'était un autre format pour apporter des choses nouvelles aussi, pour que ce soit complémentaire avec la bande dessinée.
Surtout le côté plus long aussi, parce que la BD a un côté très, je sais pas trop
C'est
comment
ça.
dire, très, très, très rapide en fait. Je crois que des fois c'est juste 3 pages, une petite aventure, et ensuite il y a des aventures un peu plus
Ouais,
longues,
ouais.
mais c'est très condensé
C'est
quoi, par
ça.
rapport à la série qui prend plus son temps, où on a justement bah, le côté, enfin, c'est une atmosphère à poser différemment quoi. On doit parler sur le temps long quelque part. Même si c'est des épisodes relativement courts, c'est quand même bien plus
Exactement,
long que
ouais.
de lire la BD. Ouais.
Ouais, c'était une des grosses différences entre les deux. La bande dessinée, à la base, c'était une commande pour un magazine, pour Léo Ado, donc de Bayard, qui voulait que je fasse une série mensuelle, du coup, dans le magazine. Donc la contrainte, c'était 5 planches par mois, avec chaque fois une petite aventure, fallait chaque fois que j'invente un monstre. Donc il y avait ce côté, ouais, un peu vraiment sériel, quoi, de chaque fois une nouvelle aventure, un nouveau monstre, qui m'empêchait un peu Enfin, ça laissait peu de place pour développer vraiment les personnages, pour essayer de faire des trucs sur le long terme. C'était un peu compliqué. Du coup, avoir le format de l'adaptation animée avec des épisodes forcément plus longs et avec un côté plus feuilletonnant fait que là, c'était justement l'opportunité de développer plus les personnages. On a mis beaucoup moins de monstres que ce qu'il y a dans la BD. C'est là où je pense que c'est complémentaire, c'est que la BD a un côté plus riche en péripéties, on va dire, parce qu'il y a beaucoup plus d'action, il se passe beaucoup plus de choses. La BD prend plus, l'animation prend plus son temps, mais du coup, ça apporte beaucoup plus de développement sur les personnages et sur leurs arcs narratifs, on va dire, sur leur
Oui.
évolution.
Et justement, on n'a pas encore parlé de l'histoire de Collège Noir. Est-ce que tu peux peut-être la raconter un petit peu?
Ouais, donc c'est une histoire qui est inspirée de ma jeunesse dans le Cantal. Donc, c'est un groupe de jeunes qui sont en gros moi et mes potes du Cantal quand j'étais au collège qui affrontent une sorcière et les créatures du folklore un peu environnantes de leur collège. Et il y a une enquête à résoudre parce qu'il y a un de leurs camarades qui a disparu, Jonas, et ils ne savent pas ce qui lui est arrivé. Et ils vont découvrir qu'en fait, bah, voilà, c'est une sorcière qui est impliquée dans sa disparition. Et avec ça, ils vont plonger un peu dans le folklore auvergnat et français en découvrant qu'en fait, voilà, il y a tout un monde caché de sorcellerie, de démons et de croque-mitaines. Donc c'est un peu à la fois un petit hommage au Cantal où j'ai grandi, quoi, les montagnes dans lesquelles j'ai grandi. Et puis aussi une espèce de mise en avant de ce folklore qui est un peu qui tend un peu à disparaître parce que c'est des folklores ruraux, un peu des vieilles légendes et tout, qui sont un peu qu'on réactualise pas trop, quoi, en fait. Donc ils sont un peu voués à disparaître si on n'en fait
Ouais.
pas des choses un peu modernes comme ça. Et
Et
j'ai
justement,
beaucoup
ces
lu que
trucs-là,
c'était
tu les connaissais d'avant ou t'as fait des recherches en particulier? Est-ce que c'est vraiment des choses dont t'entendais parler quand t'étais petit et tout, ou pas?
un peu les deux. Il y a
Ouais.
eu moi forcément je baignais un peu là-dedans parce que c'était assez présent dans la région où j'étais, quoi. C'est une région assez rurale. Il y avait encore pas mal de légendes un peu dans certains lieux, tu sais, avec des panneaux explicatifs ou des petites choses comme ça qui rappellent qu'il y a des légendes dans le coin, quoi. À partir de là, je me suis quand même pas mal renseigné pour essayer d'enrichir un peu tout ça et de trouver d'autres créatures. Et d'ailleurs, au final, je me suis un peu servi du pas seulement du folklore auvergnat, mais du folklore un peu français global.
Oui.
Parce qu'il y a, en plus, il y a des légendes et des créatures qui sont un peu qui sont communes un peu à toute la France, en fait, avec des variantes d'une région à l'autre. Le Croque-Mitaine, il peut s'appeler différemment dans une autre région, mais c'est un peu le Croque-Mitaine quand même. Que
Oui.
ce soit Père Babeau ou je sais pas quoi, tu vois, ça reste le Croque-Mitaine dans chaque région. Donc, ouais, c'était. Il y avait un peu de recherche faite quand même, et puis d'autant plus pour la série animée où je voulais vraiment pousser un peu l'ancrage dans ce folklore-là et dans le côté rural et dans le côté enfin aussi dans l'architecture et les décors, par exemple, c'est-à-dire
Oui.
qu'on reconnaisse vraiment le Cantal, l'architecture typique du Cantal, la manière dont se fait les maisons là-bas, des lieux emblématiques aussi. Donc je suis allé prendre beaucoup de photos, on s'est vachement c'est inspirer les photos, mais même des fois on décalquait les photos pour avoir exactement le lieu tel qu'il est, pour que les gens qui sont allés dans le Cantal puissent le reconnaître. Bah, si
Oui.
quelqu'un connaît le lieu, il le reconnaîtra dans la série, quoi. Donc ouais, je tenais un peu à ancrer ça le plus possible dans un fondement un peu réel, quoi. Et quand je dis réel, c'est aussi les contes et légendes, si c'est un peu paradoxal, mais je veux dire, ça s'inspire vraiment de choses existantes, quoi.
Bah c'est ça que je trouve trop bien, c'est que c'est un mélange justement de paysages français typiques, etc. Et aussi du côté légende, peut-être qu'on connaît pas encore beaucoup et qui, enfin, qu'on connaît plus justement, c'est tout ça le truc. Et ça va permettre aussi peut-être de les exporter un petit peu parce que justement la série est destinée à être vue dans plein d'endroits différents, etc. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment, j'ai l'impression, le côté folklore français. Il est pas vraiment présent à part dans certains films de genre très spécifique, etc. Mais sinon, on n'a pas trop de trucs là-dessus, quoi. Ce qui est
Ben
dommage.
ouais, c'est ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je me dis que c'était intéressant de faire quelque chose là-dessus. Et c'est moi et sûrement toi, parce que tous les gens de ma génération, on a grandi avec les animés japonais. Eux, ils ont cette tradition depuis très longtemps de continuer à réactualiser et à transformer leur folklore, en fait. C'est-à-dire tout ce qui est yokai, leur
Ouais.
vieux shintoïsme et tout. Ils sont constamment en train de le réinjecter dans leurs histoires modernes, dans les mangas, dans les animés et tout. Et ça donne une richesse super, quoi. Et c'est hyper fascinant quand tu es jeune et que tu vois débarquer les animés, que tu sens qu'il y a tout un folklore derrière, toute une mythologie et tout, et que tu découvres que c'est basé sur vraiment des mythologies très anciennes, des légendes rurales et tout ça. C'est hyper intéressant. Et ça, c'est un peu une logique qu'on a avec nos autres projets au studio. D'ailleurs, parce que Sama et Julien ont des projets aussi qui sont un peu dans cette même veine. On se dit que c'est important que les projets aient une identité assez forte et que ça, de la même manière que nous, en tant que public occidental, on avait peu de problèmes à recevoir les animés japonais, alors que c'était très ancré dans la culture japonaise. C'était ce gars avec plein de concepts qu'on connaissait pas, tu vois,
Ouais.
vous voyez passer des plats, des nourritures, on se disait, putain, ça a l'air trop bon, on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est une culture qui n'était pas là. Et ça nous a pas du tout empêché d'apprécier. Au contraire, même, je trouve qu'on était assez fascinés par ce côté, voir débarquer une culture qui n'est pas la nôtre et l'apprendre à la connaître à travers ses œuvres, quoi. Donc on se dit que de la même manière, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi dans l'inverse. À l'inverse,
C'est ça,
c'est-à-dire que
ouais.
nous, on fait des trucs ancrés dans un folklore français, avec des références typiquement françaises et tout, et que ça s'exporte de la même manière parce qu'il y a un côté fascinant de découvrir quelque chose qui a une identité spécifique comme ça. Et même, on se dit que c'est d'autant plus intéressant que nous, on commence à trouver que c'est un peu les séries animées qui sont un peu trop, on va dire, bateaux et comment qui cherchent justement à gommer un peu leur identité culturelle. Ça donne pas des séries très intéressantes, quoi. On se retrouve avec des trucs qui sont un peu, tu vois, qui sont. Enfin, je prends l'exemple débile, mais pas de patrouille, tu vois, il n'y a pas vraiment d'identité culturelle dans ce truc-là. C'est un truc très
Oui.
vaguement occidental, tu vois, il y a le camion de pompier, machin et d'autre. Enfin, ils ont gommé un peu le côté culturel, en fait. Il faut que ce soit le plus universel possible pour que ça marche, justement, à travers le monde. Et c'est une logique qui est pas, que nous, on n'a pas envie de suivre. On essaie de prendre un peu le truc à l'envers. C'est du au contraire. Plus on va donner une identité forte à nos projets, plus ça va être des projets intéressants et qui vont susciter l'intérêt, quoi.
Oui. Et en parlant d'identité même visuelle, comment est-ce que tu adaptes la BD qui est par essence aussi plus lâchée, on va dire, il n'y a pas forcément les personnages qui sont tout le temps hyper cohérents, etc. en bande dessinée. en animation. Comment ça s'est passé ce processus-là de remise en forme quelque part de l'univers pour qu'on le comprenne, que ce soit la même chose mais pas de la même façon?
Ouais, bah, y a forcément un travail un peu de simplification à faire. Je pense que c'est fait assez naturellement, encore une fois, du fait que moi, j'ai un peu le pied déjà dans l'animation et que j'avais déjà en tête un peu comment je voulais adapter les personnages et la manière dont je voulais les simplifier, en fait. Parce que tout en développant un style en BD, j'avais aussi développé un style personnel en animation, on va dire. Et faire la transition entre les deux, pour moi, était facile. On a quand même fait quelques recherches parce que je voulais essayer comment dire, de brainstormer un peu les possibilités qu'il y aurait visuellement pour adapter les monstres de la bande dessinée. Donc, on avait embauché plusieurs chara designers, Bill Otomo qui a travaillé un peu dessus, Chloé Nicolet aussi, qu'on fait plusieurs recherches de personnages un peu. Et l'idée, bon, c'était quand même de partir un peu dans tous les sens. Je leur ai proposé de faire des trucs un peu de s'éloigner de la BD. C'était intéressant et en même temps, ça m'a conforté dans l'idée qu'en fait, je voulais rester très proche de la BD. Donc, ça,
Des fois,
en
il
un
faut
sens,
s'éloigner pour savoir qu'il faut
voilà,
rester. Ouais.
c'était un peu ça. J'avais besoin, je pense, d'explorer un petit peu. Mais très vite, en fait, je me suis dit, en fait, on va pas s'éloigner tant que ça de la bande dessinée. C'est au final moi qui ai un peu fait les designs finaux des personnages. J'ai pris un tout petit peu de ce qu'avait proposé, toi, notamment Bill sur les monstres et Chloé, c'était plus sur les personnages principaux. Mais dans l'ensemble, on n'est pas parti très loin, en fait, du style de la bande dessinée. L'idée, c'était en plus de les simplifier, de les mettre au style la cachette, entre guillemets, parce qu'on a aussi une patte graphique qui est assez identifiable maintenant de studio. Et puis voilà, quoi. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle, on va dire, quoi. C'était plus facile visuellement que scénaristiquement, par exemple.
Et là-dessus, tu as été accompagné, je crois, par quelqu'un qui a aidé justement à structurer.
C'est ça, ouais. Pour le scénario, je trouvais ça plus compliqué de me dire, OK, il faut que je reprenne la BD, il faut que je décide qu'est-ce que je vais enlever, qu'est-ce que je vais garder, il faut remettre dans un format complètement différent. Pour moi, ça me paraissait être un exercice beaucoup plus compliqué que d'inventer une histoire à partir de rien, quoi, de partir de zéro et de faire un projet. Donc, ouais, j'ai proposé à Magali Pouzol de rejoindre le projet pour qu'on fasse ça à quatre mains. Et elle, avec son expertise, parce qu'elle a. Elle a déjà fait pas mal d'animations maintenant, de la série, des longs-métrages et tout, de pouvoir un peu avoir quelqu'un qui peut poser des structures assez solides aussi de série, quoi, en fait. Elle connaît bien les formats, elle sait bien quelles sont un peu les contraintes de ce médium, donc c'était bien qu'elle soit là pour faire un ping-pong, parce que l'idée c'était quand même que je voulais garder un peu les mains dedans et pouvoir quand même proposer des choses. J'essayais, on faisait les ping-pong sur chaque scénario, 4 ou 5 versions de script. Et puis la dernière version, c'est moi qui l'ai finalisée. Je repoussais un peu les dialogues pour mettre ça un peu à ma sauce. Et puis voilà. Mais ce jeu de ping-pong était très important, ouais, pour arriver à trouver une bonne. À la fois qu'elle me propose une bonne structure et que moi, j'essaie de tordre un peu justement pour essayer de proposer un peu aussi des. Enfin, ce que moi, je pensais être un peu l'originalité de la série et voilà, l'identité de la série, quoi.
Et comment on structure justement à la fois l'ensemble de la saison qui est sur 6 épisodes, enfin 6 ou 7, je sais plus, moi j'ai vu que les 4 premiers.
Six épisodes.
Donc comment on structure l'ensemble et comment on structure chaque épisode en fait? Est-ce qu'il y a un peu une forme un peu basique de ça doit finir sur un peu un truc haletant, des choses comme ça? Comment est-ce que tu fais ce
Ouais,
truc-là?
complètement. Ouais, il faut un petit cliffhanger à la fin de chaque épisode. Il faut avoir un moment un peu climax dans chaque épisode, c'est-à-dire soit un combat, soit un moment un peu fort. Enfin, voilà, il y a ces choses-là qui sont assez importantes. Ce qui est intéressant, c'est que donc la série à la base, parce que pour résumer vite fait, la série, on avait d'abord signé avec une grosse plateforme américaine qui était partante pour faire le projet. On a développé toute la série avec eux sur un format qui était 6 fois 26 minutes, donc c'est 2 fois plus long que ce qu'on a maintenant. Sauf que après le développement, finalement, ils ont dit, en fait, on va pas le faire, on annule plein de projets. Voilà, ils ont lâché le truc. Donc on avait fait le développement, ils ont lâché le truc juste avant le début de la prod. Donc on est reparti en recherche de financement. C'est là qu'on a rencontré ADN, puis ensuite Toei, et on a réussi donc morceau par morceau à refaire un budget qui permette de faire la série, quoi. Et les nouvelles contraintes qu'on avait avec ADN, c'était qu'eux, ils voulaient les épisodes de 15 minutes. Donc, l'idée, ça a été de découper la série en deux saisons. Et donc, on a repris les scénarios qu'on avait faits. On a divisé en deux et chaque épisode, donc, ils faisaient 26 minutes. On les a divisés en deux épisodes de 13 minutes, quoi. Donc, voilà, il y a toujours ce jeu à faire parce que c'est souvent, en fait, les histoires de format et le nombre d'épisodes et tout, en fait, c'est souvent par rapport aux diffuseurs. C'est eux qui vont imposer un peu ça parce que voilà, le primo diffuseur, il veut tel format parce qu'il a telle plateforme, ou c'est les chaînes de télé, eux, ils veulent plus d'épisodes. Voilà. Il y a toujours ce truc un peu qui fait qu'on est un peu constamment aussi obligé de s'adapter en fait sur ce genre de projet originaux comme ça, parce que l'idée c'est quand même de le faire et que bon, si on se prête un peu à cela, parce que c'est compliqué d'avoir un projet où on se dit ah ben, je veux absolument juste 3 épisodes de 50 minutes et je veux rien entendre. C'est ça, forcément, ça va être
Il y a
très
des
dur à financer.
compromis dans l'histoire,
Il y a un
juste pour
moment, faut
pouvoir le
faire un bruit,
montrer,
faut se
quoi.
dire bah voilà, s'il y a une chaîne qui vient et qui dit bah moi je te finance tout mais je veux 6 épisodes de 20 minutes, bah l'idée c'est quand même de pouvoir être flexible, de dire ok, on va adapter et puis on va transformer ça pour que ça fonctionne, quoi. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé, on a donc tout redécoupé. Donc il y a une saison 2 du coup qui doit être faite maintenant pour clôturer l'histoire qu'on avait prévue dans le développement. Donc voilà, mais donc les 6 premiers épisodes de 15 minutes là font à peu près la moitié de ce qu'on avait prévu.
Ok, et au niveau des dialogues, tu disais que tu retouchais un petit peu des choses, et c'est vrai qu'il y a une façon de faire les dialogues qui est très naturelle, on va dire. Il faut que ce soit adapté sur, ben voilà, c'est des petits et tout, et qui parlent un peu crûment des fois aussi. Et comment est-ce que tu écris ces trucs-là? Est-ce que c'est la façon dont tu te dis c'est comme ça qu'on parlait à cette époque-là? En même temps, est-ce que tu dois adapter certains trucs? Comment ça marche les dialogues là-dessus?
Il y a un peu de ça, j'essaie d'imaginer comment parlaient les jeunes, comment moi je parlais à cette époque. Ouais, l'idée c'est d'essayer de trouver un côté naturel. Après, il y a forcément, dès que tu commences à vouloir créer des gags et tout, c'est dur de rester juste dans le naturel. On peut pas faire du quasi-documentaire, tu vois, sur un truc comme ça. C'est obligé d'être écrit un peu à un moment et t'es obligé de trouver les formulations qui vont fonctionner, ou juste parce que c'est plus drôle ou parce que. Mais j'avais envie de garder ce côté un peu naturel qui était déjà un peu dans la BD, donc c'est une des marques de fabrique, on va dire, de la BD. Donc il fallait qu'on retrouve un peu ça. Donc c'est pour ça que je voulais garder la main sur les dialogues pour arriver à pouvoir apporter un peu ce qui était déjà dans la BD. Parce que je me rends compte que c'est pas facile pour tout le monde d'arriver à écrire des dialogues naturels. Ça, on pourrait se dire que c'est simple parce que c'est juste, ben, on fait comme les gens parlent. Mais en fait, c'est pas si simple. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de mal à faire ça, à écrire des dialogues pour qu'ils aient l'air naturels. Et après, c'est aussi dans le jeu des acteurs, il y a beaucoup de paramètres. Il n'y a pas que l'écriture des dialogues, il y a aussi ce que vont en faire les acteurs, ce qui va sortir au moment où tu. Parce qu'il y a plusieurs dialogues, par exemple, que tu écris en disant ah, c'est cool, ça a l'air naturel. Puis dès que tu as le dialogue, dès qu'il y a l'acteur qui l'a en bouche et qui commence à le dire, tu te dis ah merde, non, ça marche pas aussi bien que ce que je pensais. Du coup, faut adapter et tout. Donc, il y a aussi un peu de réécriture au moment où on enregistre les dialogues avec les comédiens. Dans tous les cas, c'est des trucs qui sont assez, c'est sur le long terme, hein, des modifications jusqu'à la fin. Mais ouais, c'est pas un exercice si facile, ouais.
Oui, les dialogues, c'est un truc qui m'a l'air compliqué. J'ai jamais eu à en écrire parce que j'ai pas spécialement écrit d'histoire avec des dialogues ou quoi pour l'instant, mais c'est
Ouais.
souvent ça peut paraître un peu artificiel, tu sais, où les gens ils parlent et puis ils disent leur prénom tout le temps les uns aux autres ou des trucs comme ça. Des
Ça,
trucs tout
ouais.
bêtes qui font
Ouais.
bizarre, quoi.
C'est pas évident, ouais. Et ça, c'est bah, c'est trouver un scénariste qui arrive à faire ça bien, c'est super, quoi. C'est un bon, c'est ouais, super.
Et au niveau de l'animation, moi, ce que j'aime bien aussi dans la série, c'est que c'est très à l'essentiel, on va dire, aussi dans le posing, dans la façon d'avoir un truc très, très impactant, sans avoir non plus beaucoup de pauses par moment. Et ça, est-ce que c'est un. Enfin, comment est-ce que ça a été défini un peu ce style-là? Est-ce que c'est aussi une question de ben, on doit faire telle longueur de film, donc quelque part, on est obligé de faire les choses un peu comme ça, ou est-ce que c'est une vraie volonté d'avoir un côté un peu plus épuré par moment dans les mouvements?
C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. J'ai envie de dire, il y a forcément à la fois l'envie artistique et les contraintes techniques et de temps et de budget. Mais ma logique, c'était que, encore une fois, nous, on était bercés par l'animation japonaise. Ils faisaient ça très bien dans les séries animées japonaises. La limitation, c'était un truc qu'ils prenaient comme une c'était pas une contrainte pour eux, c'était plus une manière justement de trouver des façons intéressantes d'animer avec le moins d'images possible. Et donc ils avaient cet art un peu de savoir bien animer de manière limitée. Et donc moi dans mes rêves artistiquement, j'avais toutes ces séries japonaises que je regardais quand j'étais petit, les Pokémon, Medabot, Crayon Shin-chan, ça. Pour moi, artistiquement, c'est ça que je voulais faire. Et il se trouve que c'était intéressant pour moi, du coup, de me dire, bah, justement, vu que nous aussi, on fait de la série, qu'on n'a pas un budget de long métrage, et bien autant mettre à profit aussi le fait qu'ils savaient très bien animer de manière limitée comme ça, pour aussi s'inspirer de ça. Et nous, dans notre production, dans notre pipeline, vraiment arriver à trouver cet équilibre entre quelque chose qui soit artistiquement très joli, mais en termes de temps et de budget, qui puisse rentrer dans ce qu'on a, quoi. Et c'est là aussi que je disais que le fait qu'on ait un peu cette double casquette de, bah, on sait à la fois artistiquement ce que ça implique de faire telle animation à tel nombre d'images par seconde. On a aussi la vision du coup de producteur, gérant de studio, qui fait que on arrive à faire très facilement le lien entre, on sait combien ça coûte d'animer comme ça, on sait que tel choix artistique va coûter tant, va avoir tant d'impact sur le budget, va demander tant de temps. Et avoir un peu cette double casquette fait que c'est peut-être ça, c'est plus facile en tout cas pour nous de dire, OK, on arrive à visualiser comment il va falloir animer ça pour que ça rentre dans le budget qu'on a en fait. Voilà.
Et combien de temps ça a pris pour justement faire toute la fabrication, vu que le développement a été fait auparavant déjà, et ensuite il y a eu un moment de pause, comme tu disais, pour trouver le financement. Ça a pris combien de temps pour vraiment fabriquer la série?
La fabrication en soi, elle a pris entre 6 et 8 mois. En comptant la pré-prod, 8 ou
Ce qui est
9
assez
mois,
court quand
quoi.
même, ouais.
Ce qui est pas très long. Ouais. C'était un peu. Il y a eu un moment où c'était même un petit peu speed, surtout pour moi, parce que du coup, moi, j'essayais de vraiment passer un peu sur tous les shots, de vérifier tout et d'avoir un peu. Justement, d'avoir un peu de contrôle sur les designs aussi. Au final, comme c'est moi qui ai fait un peu le design finaux, c'était à moi aussi de reprendre un peu les poses quand elles n'étaient pas forcément bonnes sur les layouts. Enfin, tu vois, donc c'est nous, dans nos prods, on a tendance à mettre le réalisateur un peu comme avoir vraiment un point pivot de toute la prod, quoi. C'est lui qui. C'est pour ça que nous, que ce soit en commande ou en interne, on insiste toujours pour qu'on ait un réalisateur qui sache dessiner et qui sache mettre en dessin ses intentions. D'ailleurs, nous, les auteurs, les réalisateurs qui ne dessinent pas, généralement, c'est un red flag pour nous. On ne prend pas le projet si c'est un réalisateur qui ne va pas dessiner. Parce qu'on sait à quel point c'est important d'avoir un réalisateur qui peut lui-même rentrer dans les plans, dessiner ce qu'il veut, et pour avoir vraiment un contrôle sur tout ça, quoi, sur l'ensemble de la série.
D'où le fait qu'il y ait cette gradation aussi de tu commences animateur, animatrice, et ensuite tu supervises.
Ouais.
Et donc tu as cette expérience-là qui te permettra ensuite de quelque part chapeauter aussi quelqu'un qui supervise en tant que
Exactement, ouais.
réalisateur et tout, quoi. Tu vois.
C'est ça. Ce qui vient aussi justement un peu de l'animation japonaise, hein, ça. Le fait que d'avoir du coup Oussama qui avait fait un stage au Japon, Julien qui a fait un stage aux États-Unis, ils ont un peu ramené aussi l'expérience de ces stages et voilà, chacun de leur côté, en fait, tu vois, deux façons de bosser différentes. Et on a un peu essayé, nous, de s'inspirer de ce qui nous convenait dans chaque version pour arriver à créer notre propre manière de faire. Et cette hiérarchie, un peu avec le réalisateur, un peu au sommet du truc, de lui accorder vraiment une vraie confiance, c'est-à-dire c'est lui qui contrôle l'histoire, le scénario, le dessin et tout, ça vient plutôt du cinéma japonais, ça, enfin, de la manière d'animer au Japon.
Et une autre partie qui participe justement à l'ambiance particulière de la série, c'est la musique, à la fois la musique du générique et ensuite les thèmes dans la série en général. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu là-dessus? Je sais que la musique a été déjà existante, si j'ai bien compris dans ton interview que tu avais faite avec quelqu'un d'autre. Donc, d'où ça vient ce truc-là et cette envie justement, bah, encore une fois, de mettre le côté musique traditionnelle aussi de la région, comment ça s'est adapté dans la série elle-même et tout ça?
Ouais, alors effectivement, le générique était une chanson déjà existante, ouais. Qui était une chanson que j'ai trouvée quand je cherchais des chansons pour m'inspirer, en fait, simplement juste parce que moi j'aime bien quand j'écris ou quand je crée, avoir de musique ou de faire une playlist. Je me fais énormément une playlist de plein de musiques différentes, de soit des trucs de films, soit des... Là, en l'occurrence, il y avait pas mal de trucs folkloriques aussi. Enfin, des trucs vraiment qui vont m'inspirer pour des trucs qui sont un peu dans le thème, quoi. Et parmi ces chansons, il y avait ce chanteur qui s'appelle Gabriel Yacoub. Et c'était un chanteur, mes parents écoutaient beaucoup quand j'étais jeune, ou il était dans un groupe qui s'appelait Malicorne. Et donc ça je m'étais souvenu de ça, et je me disais que ça faisait partie des références du coup que j'avais pour me replonger un peu dans cette époque, tu vois, le début des années 2000 là. Et ça marchait très bien avec l'ambiance parce que c'était, voilà, de la musique très folklorique avec des voix. Et donc j'étais allé chercher des musiques de cet auteur, et j'ai tombé sur ce morceau, et en entendant les paroles, je me suis dit ça colle vachement bien avec la série. Les paroles sont vachement écho à tout ce qui est dans la série. Ça parle d'enfance, ça parle de volcans, ça parle de plein de trucs hyper vraiment en raccord avec ce que j'essaie de mettre dans la série. Donc on a contacté l'auteur. Donc le compositeur, c'est Didier François, et on a contacté son label pour avoir son autorisation pour utiliser la musique. Donc il était d'accord, et voilà, ouais, on est parti du coup avec ce morceau-là comme un peu base pour la musique, parce que c'est ça qui a donné un peu son ADN, au moins une bonne part de son ADN à la musique, qui elle après du coup a été composée, la musique de la série, par HP, qui est un auteur qui a fait principalement du jeu vidéo. C'est Henri-Pierre Pellegrin, ouais, son pseudo c'est HP. Et donc c'est la première fois qu'il fait de la série animée, enfin de la série tout court, de l'audiovisuel. Mais j'aimais bien cette idée d'avoir quelqu'un qui fait des jeux vidéo, parce que là aussi, ça c'était un peu moi dans mes rêves, cette idée de retrouver une ambiance un peu jeu vidéo des années 90, début des années 2000. Là encore, c'était plutôt
Exploration,
moi,
aventure, ouais.
exactement, voilà. Parce qu'à cette époque, là aussi, moi, je jouais à fond à Zelda, par exemple, tu vois, tous ces jeux. Donc, dans ma tête, quand je me disais, bah, je veux faire une série sur mon adolescence, il y avait ça qui revenait en mémoire, quoi. C'était un peu ces jeux vidéo. Le fait que moi, quand je me baladais dans la campagne, je me croyais dans un décor de Zelda ou de Seigneur des Anneaux. Donc, c'était assez cohérent pour moi d'avoir quelqu'un qui vient du jeu vidéo et qui puisse apporter cette petite touche un peu RPG, tu vois, à la musique. Donc, l'idée, c'était ça, la consigne, c'était un peu de mélanger des influences un peu jeux vidéo et RPG avec de la musique trad, du coup folklorique, qui représente un peu plus du coup tout l'aspect monde des ténèbres et monstres qu'il y a dans la série, quoi. Et donc il a fait un super taf, c'était je suis hyper hyper heureux de la
C'est vrai
musique,
que
ouais.
l'atmosphère générale de la série est très prenante, je trouve, avec une identité particulière en fait qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. C'est vrai que dès le générique, il y a un côté un peu en décalage avec ce qu'on a l'habitude de voir, parce que justement, c'est une musique traditionnelle et tout, avec des instruments qu'on n'entend pas d'habitude, des voix multiples et tout ça. Et c'est pas comme dans plein de séries où c'est beaucoup plus soit dynamique, soit plus dans du violon et des trucs comme ça, si c'est dramatique. Là, c'est vraiment particulier, quoi. Ça que je trouve cool. Donc justement, là, on a parlé musique, on a parlé animation, etc. Et dans le côté passage de faire de la BD à faire de l'animation, je sais que tu passes de l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu as à dire sur justement la différence entre les deux? Tu parlais de contrôle au début. Dans la BD, tu contrôles tout. Là, tu dois plus gérer d'autres gens qui vont faire le truc. Comment est-ce que tu vis ce truc-là de passer de l'un à l'autre?
C'est ça. Une des grosses différences, c'est que sur la BD, je suis tout seul, donc je fais vraiment ce que je veux, et il y a on va dire, beaucoup moins de pression et contrainte, parce que il y a beaucoup moins d'argent en jeu. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu plus. Je me sens un peu plus libre, par exemple, dans mon dessiné quand je fais de la BD. Mais c'est aussi peut-être un peu plus limitant, parce que voilà, sur l'animation, tu as tout l'aspect aussi. Sonore, mouvement que tu n'as pas dans la BD, qui fait que tu peux tu as plus de dimensions encore à explorer, quoi, pour raconter ce que tu veux. Encore là aussi, pour moi, c'est très complémentaire, quoi. J'aime beaucoup passer de l'un à l'autre. J'adore. Quand je fais du dessin animé, la BD me manque, et quand je fais de la BD, très vite, je me dis, ah, on va bien en faire du dessin animé quand même. Ouais. Et puis, même d'un point de vue prod et purement. Financier, en fait, c'est assez intéressant, je me suis rendu compte, d'avoir publié une BD pour pouvoir essayer de vendre un projet d'animation, en fait. Le fait que le Collège Noir, c'était une BD avant d'être un dessin animé, je pense que ça a vachement facilité le chemin pour financer, en faire une série. Parce qu'il y a déjà un objet à la base qui a marché un petit peu. Enfin voilà, il y a déjà quelque chose à montrer, en fait. C'est déjà une œuvre, quoi. Du coup, c'est plus facile, je pense, de convaincre des financiers d'arriver avec une BD en disant, regardez, on a ça qui existe, maintenant on a envie d'en faire un dessin. Plutôt que d'arriver avec rien du tout, et c'est un peu plus dur de visualiser ce qu'on veut faire. Enfin, voilà, ouais, je pense que ça c'est pas bien. C'est un bon pouvoir faire une bande dessinée avec l'idée de l'adapter en dessin animé après. Je pense que c'est pas idiot comme stratégie, en fait.
Oui, c'est vrai que le côté adaptation, enfin, c'est parmi les choses qu'on voit le plus, quoi, des choses qui sont adaptées, dérivées, etc.
Oui, c'est ça, ce qui se mieux, c'est ça. Souvent, c'est soit les romans, soit. Ouais, c'est souvent des adaptations. Ouais. Parce que ça rassure quelqu'un qui va mettre de l'argent. Parce que le dessin animé, c'est beaucoup plus d'argent que la bande dessinée. Et donc, il y a cet aspect aussi qui est que c'est beaucoup plus de personnes impliquées aussi, à tous les niveaux, à la fois artistiquement, en termes de prod, sur le scénario, sur. Même si moi, j'ai envie de garder le plus possible de contrôle sur l'adaptation et je fais moi-même beaucoup de choses dessus. Mais il faut laisser la place justement aussi à tous les artistes qui travaillent dessus. À la fois au scénario, on parlait, la musique évidemment, les acteurs, et puis les animateurs. Ça, voilà, il y a tous ces artistes qui bossent et qui vont mettre un peu d'eux aussi dans le truc. Et je pense qu'il faut faire gaffe à ne pas être non plus trop contrôle fric sur le projet pour que ce soit aussi un truc agréable à faire pour eux, quoi, que ce soit pas juste. Justement, qu'ils n'aient pas juste l'impression de servir une grosse machine, tu vois, sans avoir de trucs personnels à mettre dessus, quoi.
Oui, ça revient au truc que tu disais au début, le côté tu voulais pas juste faire partie de gros rouages comme ça sans décider de quoi que ce soit, bah là tu essayes aussi de faire ça pour les équipes, quoi.
Ouais, et puis c'est aussi, enfin, même de manière très pragmatique, c'est que je suis à des domaines dans lesquels je suis pas bon du tout, hein. Moi, les décors, je suis pas très doué là-dedans. Évidemment, la musique, je sais pas faire. Enfin, ouais, il y a tous ces domaines qui font que là-dessus, je suis obligé de proposer sur d'autres artistes, quoi. Et à ce moment-là, moi, l'idée, c'est juste d'essayer de leur donner le plus possible ce que moi j'ai en tête et de les laisser après à interpréter et faire ce qu'ils veulent et me rendre quelque chose, quoi. Mais bon, enfin, voilà, c'est comme ça que ça marche un peu dans toutes les prods, hein,
Oui, complètement. Et je
je
me
pense.
demandais juste aussi comment ça s'était passé la rencontre avec ADN déjà et aussi ensuite avec Toei parce que c'est justement c'est des productions qu'on connaît tous et toutes super impactantes et tout ça. Donc en gros, comment est-ce que ça s'est fait d'avoir une double production comme ça aussi avec le Japon? Ça s'est passé comment? Je suis un peu curieux de savoir.
On est super content de cette collab parce que c'est en plus assez exclusif, quoi. C'est la première fois qu'on a vraiment cette espèce de schéma avec une plateforme française, un producteur comme Toei, qui est un gros producteur japonais, France TV qui a donné un peu d'argent quand même aussi, et puis des aides de régionales, du CNC aussi. On a la région Sud notamment qui a donné un peu d'argent, qui a aidé à faire le projet, et le CNC. Mais donc, en fait, voilà, c'est un gros montage un peu comme ça, donc on est assez fiers. Et donc, quand la grosse plateforme américaine nous avait lâchés, on était un peu repartis avec difficulté, parce que pour le moral, c'était un peu dur d'avoir le projet comme ça. Donc, on avait reproposé à d'autres plateformes, d'autres grosses plateformes qui étaient plus ou moins intéressées. On avait deux, trois pistes, mais. C'est à ce moment-là qu'on a rencontré ADN, qui nous ont contacté eux parce qu'ils cherchaient justement des projets à financer. Ils voulaient faire de la coprod pour financer les projets originaux français. Et donc on les a rencontrés et on s'est super bien entendus en termes de ce qu'on pensait de l'animation, en fait, de philosophie et tout. C'était enfin voilà, on s'est senti très proche d'eux. Donc plutôt que de partir avec une autre grosse plateforme, on s'est dit bah peut-être on aura beaucoup plus de budget, mais en même temps, on repart peut-être avec les mêmes risques qu'on a eu juste avant, avec peut-être beaucoup moins de contrôle. Enfin, voilà, on a préféré partir avec eux, voilà, avec l'idée qu'on aurait moins de budget, mais peut-être plus de contrôle artistique et surtout une relation humaine vachement plus forte aussi avec eux, quoi. La confiance et tout, donc c'était ça qui a joué. Donc voilà, et donc ils ont pas financé toute la série, ils ont financé une bonne partie. mais il restait une partie à financer qui a été donc financée par la Toei. Et là, c'est pareil, c'est une rencontre. Souvent, c'est un peu de la chance aussi. On les a rencontrés à Annecy. Et eux, effectivement, justement, plus on connaissait Olfa, la fille qui travaille justement chez Toei, qui était une amie qu'on connaissait depuis quelques années, qu'on avait rencontrée au Japon, qui nous a contactés en disant, ah, maintenant, je bosse chez Toei et ils cherchent des projets à financer justement en animation. Et tout. Donc, on les a rencontrés, on leur a proposé ça. Ils ont, pareil, eu un petit coup de cœur sur le projet. Et puis, voilà, ça s'est fait un peu comme ça, de manière assez naturelle. En plus, ils sont arrivés, du coup, à un moment où, on avait déjà, du coup, commencé la pré-prod avec ADN. On s'est dit qu'on pouvait, à ce stade-là, on pouvait pas porter l'histoire, changer les designs et tout. Si tout est rentré sur la prod et nous aider, il fallait que ce soit en mode juste financier et qui nous laisse un peu le côté créatif, je sais pas trop côté créatif à ce stade-là. Et ça, ils ont été très respectueux de ça, donc c'est aussi une super chance qu'on a eue, c'est qu'ils ont cru vachement au projet, donc ils ont dit, pas de problème, faites ce que vous voulez, et puis, enfin, gardez ce que vous avez déjà, nous, on peut juste soutenir le projet. Et voilà, et donc ouais, super partenariat avec eux, on est très contents, ils sont vachement soutenus, vachement aidés, et puis ça aide aussi d'avoir un nom comme Toei justement sur la prod après pour le vendre à
Oui,
l'international
voilà.
potentiellement. Ouais.
Et peut-être dernière chose, c'est plus par rapport au studio en général, mais quels autres projets sont, enfin, vers quelle chose vous voulez ensuite vous tourner? Parce que là, il y a la saison 2 justement, qui, je ne sais pas si elle est déjà rentrée en prod ou quoi, mais il y a aussi le film de Julien, qui je ne sais pas trop à quel point c'est dans le studio ou pas, mais j'ai vu qu'il avait commencé à en parler. Et il y a aussi Oussama qui fait, je ne suis pas sûr, j'ai vu le court-métrage qu'il a fait avec le livreur, etc. Mais je sais pas si c'est pour une série ou pour un film. Il y a plein de choses en fait qui sont en
Ouais,
train de se.
c'est pas mal. On a ces deux projets originaux, ouais, en plus du Collège Noir, donc avec la saison 2, qui est effectivement, on va essayer de rentrer là en pré-prod assez vite. Mehdi et Mouilly, donc les deux autres projets, c'est donc effectivement le projet d'Oussama avec le facteur et le projet de Julien Mouilly qui se passe en Chine, qui a une histoire basée un peu sur le folklore et la mythologie chinoise. Et les deux sont en pré-prod, là, ils ont. Ouais, Ous et Julien sont en plein storyboard en fait du projet de leur projet. Donc ça avance. Et l'idée c'est qu'on est, ouais, c'est au moins ces trois projets, on a envie de les mener à terme, voilà, de manière le plus indépendante possible. Et puis un peu comme le Collège Noir, quoi, d'arriver vraiment pour les 10 ans, on disait qu'on voulait avoir les trois projets, c'est-à-dire d'avoir vraiment bouclé ce truc de, on a nos trois premiers projets originaux, quoi. Je ne sais pas si on l'aura pour les 10 ans, parce que ça n'a pas longtemps, les 10 ans, mais on est pas très loin, quoi. L'idée, c'est que donc le Collège Noir s'est enclenché. Normalement, la saison 2, elle va se faire. Et maintenant, on va chercher des partenaires pour Mehdi et pour Mehdi, quoi, avec l'idée que on garde un peu de place pour des projets de commande, mais plutôt des projets coup de cœur. C'est-à-dire, voilà, comme la relation qu'on a avec Genji Tartakovsky. On a c'est des projets sur lesquels on travaillera s'il y a des projets comme ça qui se relancent. Mais ce sera plutôt du coup de cœur. C'est-à-dire, voilà, si on a un coup de cœur sur un projet, on prendra. Mais sinon, on se réserve plutôt la place pour nos projets originaux, autant que possible. Pour l'instant, on a la chance de ne pas avoir eu trop comment dire, à quémander des projets parce qu'on avait des trous ou quoi. Pour que ça dure. C'est plutôt l'inverse, on a plutôt tendance à refuser les projets. Justement, je parlais de projets qu'on ne sentait pas forcément, par exemple, qui venaient de réalisateurs qui viennent du live et qui du coup ne savent pas dessiner ou des choses comme ça. On se dit, bon, c'est potentiellement de l'argent, c'est potentiellement des gros noms, mais en fait, on peut faire des noms parce qu'on s'en fout. Ça nous arrive, voilà, de refuser des trucs comme ça pour
Ouais,
garder
quelque
la
part,
place pour des projets, ouais, des projets coup de cœur.
c'est quelque part le luxe qu'on a une fois qu'on a fait justement des commandes par le passé, que ça a construit, etc., l'image du studio,
Ouais,
donc c'est
voilà.
cool.
On n'est jamais à l'abri qu'à un moment on se retrouve avec rien du tout. Bon, ça évolue toujours un peu. C'est l'industrie qui a des hauts et des bas, quoi. Il y a bon, des pénuries de projets ou des pénuries d'animateurs à embaucher où il n'y en a plus trop. Enfin, voilà, c'est toujours un peu fluctuant, mais bon, pour l'instant, on est bien. Voilà. Et tant qu'on peut arriver, nous, à faire notre projet, c'est vraiment ça l'important pour nous, quoi. C'est d'arriver à concrétiser ces projets-là. et à se créer un catalogue aussi. Et on se dit, alors, sur le long terme, c'est intéressant d'avoir un catalogue à nous, quoi. Quelque chose qui, avec des licences à nous, en espérant qu'elles marchent, quoi. On verra comment ça fonctionne. C'est pas sûr que ça devienne Harry Potter, mais ce serait
Oui,
intéressant que
puis de
ça
toute façon,
puisse.
c'est. J'imagine que aussi le fait que ce soit sur une plateforme, c'est peut-être plus facile parfois qu'à la télé où c'est pas. Enfin, maintenant ça va, c'est rediffusé un peu partout, etc. Mais là, c'est vraiment un truc où c'est figé maintenant, c'est là-bas et ça peut être vu n'importe quand, etc. Enfin, je trouve que ça peut aider à avoir ce côté découverte en fait, parmi d'autres choses. Ouais.
Bah, les plateformes, ça a vachement. Ça, enfin, nous, c'est aussi grâce aux plateformes qu'on a pu grossir et qu'on. Parce que quand on a commencé le studio et qu'on avait. Il y a des moments où on n'avait pas grand-chose, justement. Tu sais, c'était un peu avant l'avènement des plateformes. C'était Netflix commençait à arriver et tout, mais il n'y avait pas encore toutes les plateformes qu'il y a maintenant. Et à partir du moment où il y a eu Netflix, où il y a eu un peu de la concurrence avec toutes les plateformes qui cherchaient du contenu. Et qui voulaient du coup beaucoup de contenu en animation parce que c'était peut-être plus facile à faire ou moindre coût, des choses comme ça. On a commencé à sentir qu'il y avait plus de demandes, notamment pour l'animation 2D, alors que c'était un peu. On prédisait que c'était un peu mort, tu vois, juste avant que les plateformes arrivent. Tout le monde était passé à la 3D. Nous, en sortant des Gobelins, on nous disait il ne faut pas que vous vous amusiez à faire de la 2D, c'est fini la 2D, il faut que vous passiez à la 3D. Allez, bosser chez DreamWorks plutôt, c'est là qu'est l'avenir, quoi.
Alors que maintenant il y en a partout et c'est vrai que c'est vraiment cool pour la 2D en ce moment.
Ouais, c'est ça. Et surtout, la 2D, ça vieillit pas par rapport à la 3D, quoi. C'est ça la force de la 2D, c'est que je pense que ce sera jamais démodé. Alors qu'un film d'animation en 3D, 5 ans plus tard, presque, il est un peu vieilli ou voilà, on se rend compte que c'est qu'il y a 5 ans, quoi, le film. Alors qu'un film d'animation des années 90, ça a toujours de la gueule, quoi.
C'est clair.
Donc on se dit qu'il y a ce côté un peu éternel de l'animation 2D qui fait que. Ah, et une bonne série, comment dire, une série avec peu de budget en 3D, ça se ressent plus qu'une série avec peu de budget en 2D. On sent que la qualité est pas trop là quand c'est de la 3D, alors que sur de la 2D, on peut arriver à faire quelque chose de joli avec peu de budget.
Oui, c'est ça, bah c'est justement tout l'héritage aussi justement des animés et tout dont on parlait avant, l'animation dite limitée. Enfin, je trouve toujours ça un peu bizarre comme terme, animation limitée, parce qu'on dirait que c'est moins bien, que ça se retient et tout. Alors pour moi, c'est fort aussi à sa façon, quoi. Moi, j'adore les trucs un peu
Exactement.
saccadés, etc., avec des poses fortes et tout
Ouais,
ça.
parce qu'il y a tout un art qui va avec, quoi, une manière d'animer, du coup, en n'utilisant pas forcément 24 images par seconde, quoi, qui est, comme tu dis, c'est basé plus sur les posings, sur le dynamisme des poses, et sur. Donc c'est tout un art qui est hyper intéressant aussi, d'ailleurs, à travailler, je trouve.
Et peut-être pour finir, comment est-ce que tu comment dire ça? Comment est-ce que tu vis au quotidien le fait de gérer parfois plusieurs projets en même temps ou des choses comme ça? Et j'aime bien voilà, terminer sur ce côté plus vie personnelle, vie professionnelle. Est-ce que tu penses tout le temps à ces productions-là? Est-ce que tu arrives à te détacher? Est-ce que c'est beaucoup de stress quand il y a des productions en cours ou des choses comme ça?
Ouais, c'est après comme je disais là, on est sur un apprentissage sur le long terme aussi de comment gérer une boîte et tout. Donc ça va avec ses hauts et ses bas, ça va avec des moments où on a trop de projets et on est stressé ou du coup on se dit bon, c'est peut-être pas la bonne direction qu'on prend, on va réadapter, on va peut-être prendre moins de projets. Enfin, il y a toujours cette espèce de fluctuation où on essaie justement de garder un peu une vie à côté, quoi. Mais c'est pas facile. Et pour le coup, ouais, c'est Là, on a eu une période où on avait un peu trop de projets en même temps. Et justement, comme nous, on a cette envie un peu de garder le contrôle sur tout et de tout superviser un peu. Il y a un moment, c'était très, très dur, quoi. Il y avait beaucoup de choses en même temps à faire, beaucoup de choses à gérer. Tu as tout un aspect humain aussi, du coup, quand tu gères une boîte, d'autant plus quand tu as beaucoup de monde à gérer et tout, qui ajoute en plus une couche de difficulté et de challenge, quoi. Donc, ouais, non, c'est pas simple. Quand une série comme Le Collège Noir sort après, on se rend compte pourquoi on le fait, parce que c'est super gratifiant de voir la série sortir, de voir les réactions et de pouvoir parler du projet et tout. Mais c'est, ouais, je pense qu'on dit que c'est un boulot passion parce que si t'es pas passionné par le truc,
Ouais, tu vas pas le
vaut mieux pas
faire,
se
quoi.
lancer là-dedans. Bah, c'est tellement chronophage et tellement. Mais ouais, voilà, moi je pense que là, on en est au stade au studio où justement, surtout nous trois, Oussama, Julien et moi, on essaie de je disais on commence à essayer de déléguer aussi un peu l'artistique nous pour pouvoir nous détacher un peu et et pouvoir tenir le coup sur la longueur aussi, quoi, et pas exploser en vol parce qu'on aura trop travaillé ou parce qu'on aura fait des burn-out, quoi. C'est pas l'idée, quoi. On essaie de se ménager un petit peu aussi, quoi. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, le studio, il est pas si gros que ça, en fait. On a pas. Je parlais de la période où on a eu pas mal de projets en même temps. On avait la saison 2 de Primal, on avait la nouvelle série de Genndy Tartakovsky en même temps, Unicorn Wars Eternal, plus le court-métrage Star Wars, plus la moitié du film Ernest et Célestine à produire, plus le collège noir en développement. Bref, il y avait trop de trucs, quoi. Et là, on est monté à peu près à peut-être quoi, 100 personnes au studio. Et on s'est rendu compte que c'était un peu la limite, le plafond qu'on supportait. Et à partir de là, on est redescendu un peu en disant, bon, là, ça faisait beaucoup, on va essayer de pas. L'idée, c'est pas de grossir éternellement. On a plutôt comme modèle des petits studios comme Ghibli. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais en même temps, on a cette idée qu'on préfère bosser dans une petite structure avec des projets originaux un peu sympas à faire. Et plutôt que de devenir un énorme truc à la Disney où il y a 50 projets en même temps et où on n'a plus du tout le
Oui, quand
contrôle
tu le gères, tu
dessus.
pourras plus du tout avoir l'œil sur les choses qui se passent un peu partout,
C'est
quoi. Ça va
ça,
être
ouais.
beaucoup plus difficile.
Exactement.
Et bah, peut-être pour finir, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à la série, un truc qu'on n'aurait pas abordé ou par rapport à ce que c'est de travailler là-dedans, justement, un petit truc à dire aux gens, je sais pas, comme tu veux.
Bah, aller voir la série parce que le meilleur moyen
Déjà,
de
ouais.
soutenir le projet, c'est d'aller la voir sur ADN. À ce stade-là, c'est ça qu'on a besoin, quoi. Avoir les retours des gens, c'est le meilleur moyen pour vous de savoir qu'on a fait du bon boulot, quoi.
Bah, j'étais justement à la séance à Annecy où il y avait un monde fou dans la
Ouais.
salle et tout le monde était méga méga chaud et tout ça, où on avait vu le premier épisode. Donc je me dis que là ça devait vraiment être un truc un peu presque de soulagement, ou en tout cas d'exaltation, de tout le monde est là, tout le monde est à fond dedans, alors que quelque
Ouais,
part on n'avait pas trop d'infos sur le projet en lui-même. On savait juste la cachette fait une série et c'était déjà assez pour être à fond dedans, quoi. Donc
bah,
ça,
surtout Annecy, c'est le public est
ouais.
déjà un peu voué à la cause, on va dire, quoi.
C'est
C'est
ça.
plus une ordinaire. Oui. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis, c'est bien d'aller la voir. C'est ce genre de projet, comme c'est vraiment un projet original qui vient pas d'une grosse licence et tout, c'est difficile en fait d'arriver. On s'en est rendu compte aussi parce qu'on se retrouve à faire aussi la com du projet, comme on est producteur dessus, on essaie de vendre le projet, on a lancé un TikTok exprès pour essayer de faire un peu de pub, enfin, et on découvre que c'est très compliqué en fait d'arriver à faire sortir le projet et à faire en sorte que les gens en parlent. En fait, c'est vraiment, il y a tellement de choses qui se passent sur l'internet, il y a tellement de projets qui sortent, il y a plein de trucs. C'est dur d'arriver à. Et on voit que tous les gens qui le voient, ils adorent et ils kiffent. Donc, nous, c'est super, on est super contents. Mais en même temps, on se rend compte que c'est difficile pour le projet de sortir au-delà du cercle d'animation, du cercle de. Voilà, des abonnés ADN. Enfin, c'est pas évident. Quand on a un projet original comme ça, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour finalement. Pas forcément un nombre de vues incroyable non plus, quoi.
Et ça, donc c'est le suspense de voir comment la saison 1 va se passer, et ensuite voir comment ça
Exactement, et
ira pour
puis
la
c'est ça,
suite. Ouais.
plus on aura de gens qui verront la saison 1, plus nous on pourra faire la saison 2 et puis travailler sur d'autres projets derrière. Ça, c'est un cercle vertueux.
C'est ça. Donc voilà, message de fin. Allez voir la série, puis dites ce que vous en pensez, et tout ça va aider. Ouais.